Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la une évidemment. Cet incendie qui a ravagé un immeuble de Vaux-en-Velin. Cette nuit, incendie au bilan très lourd. 10 morts, dont 5 enfants de 3 à 15 ans. 4 blessés sont aussi en urgence absolue. Et des scènes d'horreur donc, dont témoigne cette habitante du 4e étage.
Mon mari nous a réveillés en panique pour nous dire que l'appartement était totalement enfumé. Voilà, on était pris par une fumée toxique et on s'est vu mourir. On a cru qu'on allait mourir, vraiment. J'appelais au secours par la fenêtre, mais personne ne pouvait nous aider, on était dans les étages.
Vous entendrez dans quelques minutes en longueur le témoignage de cette mère de famille rescapée ainsi que ses 4 enfants. On reviendra aussi sur l'enquête ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Et nous serons à 12h40 avec le député Alexandre Vincendé, élu de la circonscription. Dans cette édition, également des tensions entre communautés à Montpellier après la mort d'Aymen mercredi soir, l'adolescent fauché par un automobiliste lors des festivités d'après-match entre la France et le Maroc. Et puis, Covid, grippe, bronchiolite, les virus sont virulent à l'approche des fêtes.
Et plus léger, nous ne sommes plus qu'à 2 jours de la finale du Mondial.
Les hommes de Didier Deschamps défieront l'Argentine, vous le savez, dimanche à 16h pour conserver leur titre. Face à eux donc Messi, 7 ballons d'or et un rêve, emmener l'Albi Céleste sur le toit du monde. On y reviendra longuement à 12h20. Le Mondial qui est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. L'équipe de France va-t-elle, selon vous, remporter la Coupe du Monde? Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi en musique aujourd'hui et avec Calogero.
Autant de sujets bien sûr dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole au 32-10.
Avance à la météo, c'est avec vous Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Ça sera un temps plutôt ensoleillé sur les 3/4 du pays mais avec une nouvelle offensive du froid.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
10 morts, dont 5 enfants de 3 à 15 ans et 4 blessés en urgence absolue. C'est le bilan. Terrible bilan de l'incendie qui s'est propagé au milieu de la nuit dans un immeuble de Vaux-en-Velin dans la banlieue de Lyon. 170 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Frédéric Perruche, vous êtes au pied de cet immeuble, de cet étage, théâtre de scènes d'horreur cette nuit.
Ah oui, le mot n'est pas trop fort, scène d'horreur, car les habitants ont été surpris et piégés par les flammes, mais surtout par les fumées toxiques, noires, épaisses, qui ont rapidement envahi la cage d'escalier et les appartements, provoquant des scènes effroyables, comme le racontent ces deux voisines.
Il y a des gens qui, par la fenêtre, criaient.
Ils ont sauté pour sauver leur vie, qui ont jeté leurs enfants aussi pour essayer de leur sauver la vie.
On ne pouvait rien, on était impuissants face à eux, on les voyait brûler, on les voyait sauter, on voyait des enfants voler, sauter du 2, 3, 4e étage. Une maman qui les a suivis, la maman est décédée, des bébés, on voyait des bébés, des mamans qui donnaient parce qu'il y avait, il y avait 2-3 bonhommes en bas du coup qui récupéraient les enfants et puis on les récupérait après, on les donnait, une fois que les pompiers sont arrivés, on les a donnés aux pompiers, c'était un enfer, c'était l'enfer.
Frédéric, une enquête est ouverte, on l'a dit, mais est-ce qu'on sait déjà ce qui a pu se passer cette nuit ?
Écoutez, pas encore évidemment. Les équipes de la police scientifique et les experts du service incendie ainsi que la police judiciaire sont sur place à la recherche de l'origine du sinistre, du foyer. Origine criminelle, accidentelle, on ne sait pas, seule certitude. L'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée, semble-t-il, dans un local du hall d'entrée squatté de longue date par des dealers.
L'incendie est parti de l'allée, là où il y a les squats, là où les jeunes sont posés, où il y a les canapés, il y a les chaises, où en fait ils ont pris possession des lieux. Clairement, les gens de l'immeuble ont peur, les gens qui habitent à proximité déjà avaient peur. Donc voilà.
Ce squat, ce point de deal, ce canapé, tous les riverains et les habitants de l'immeuble en parlent. L'origine du sinistre, effroyable selon eux.
Merci beaucoup Frédéric Perruche, à vous Vaux-en-Velin pour RTL.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place dès ce matin. Il est d'ailleurs en ce moment même en train de parler avec les policiers.
Il a fait une déclaration publique avant ça, il y a quelques minutes, déclaration dans laquelle le ministre de l'Intérieur a tenu à saluer le travail des secours et a donné quelques premiers éléments sur l'enquête.
On a voulu évidemment d'abord soutenir les familles endeuillées qui ont des personnes blessées ou qui recherchent encore de savoir ce que sont devenues leurs familles dans cet immeuble qui a connu donc vers 3h du matin un incendie dont l'origine n'est pas connue. Monsieur le procureur de la République a ouvert une enquête dans des circonstances extrêmement dramatiques puisque nous avons 10 morts, 4 blessés très graves dont la vie est encore en danger et une centaine de personnes impliquées. Et la priorité est d'une part à l'identification des victimes. Nous n'avons pas encore identifié toutes ces personnes. Il y a notamment 5 enfants entre 3 et 15 ans. Et elle peut prendre plusieurs heures, ces identifications, et donner une réponse aux familles que nous avons rencontrées, qui sont évidemment dans l'émotion, parfois la colère, ce qui est évidemment tout à fait légitime. Et nous devons aussi reloger une centaine de personnes.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, donc à Vaux-en-Velin ce matin. Le ministre qui alerte par ailleurs sur le danger d'ultra-droite après les incidents à l'issue de la rencontre France-Maroc. Le ministre de l'Intérieur demande au service de renseignement un suivi spécifique avant la petite finale de samedi entre les Lions de l'Atlas et la Croatie. Bovo explique en effet que mercredi dernier, des groupes d'ultra-droite se sont rassemblés avec pour mot d'ordre, je cite, de casser de l'arabe. Des tensions aussi toujours très vives à Montpellier dans le quartier de la Paille. C'est là qu'Aymen est mort mercredi soir, fauché par un chauffard après le match France-Maroc. Là encore, lors des rassemblements qui ont suivi. Hier soir, des affrontements ont éclaté entre la communauté marocaine et des gens soupçonnés d'être plus ou moins liés au chauffeur qui est toujours, je le rappelle, recherché.
RTL Midi. Les virus vont-ils gâcher les vacances? En tout cas, ils sont particulièrement virulents en cette fin d'année.
Oui, même si l'on semble atteindre un pic sur cette 9e vague de Covid, la grippe, elle, ne cesse de progresser à Gatlandais.
Oui, et elle frappe très violemment l'hôpital en ce moment. Les passages aux urgences et les hospitalisations pour grippe ont doublé en une semaine. Alors que dans le même temps, les Français sont encore nombreux à tomber malades en ce moment, avec une hausse des cas de grippe de 43% sur une semaine, qui frappe toutes les classes d'âge, y compris donc les plus âgés. Concernant les autres virus, une embellie se dessine concernant la bronchiolite. Le pic est bien passé, mais la vague a été tellement forte qu'elle va mettre beaucoup de temps à retomber. Les services de pédiatrie sont encore très fortement touchés par la bronchiolite actuellement. Enfin, concernant le Covid, Santé publique France confirme que les contaminations et les hospitalisations commencent à se stabiliser. Il est en revanche encore trop tôt pour affirmer que le pic est passé. Santé publique France appelle ce midi la population à adopter les gestes barrières et à se faire vacciner au plus vite contre la grippe et le Covid. Seule solution pour se protéger au maximum avant les fêtes.
Merci beaucoup Agathe Landais.
RTL Coupe du Monde 2022.
Si les enfants comptent les dodos avant Noël, les amateurs de foot comptent ceux qui les séparent de dimanche. Et bonne nouvelle, il n'y en a plus que 2.
Bah oui, j'y moins 2 avant de voir les hommes de Didier Deschamps entrer sur le terrain pour affronter les coéquipiers de Léo Messi et tenter de conserver leur titre mondial, exploit qui serait historique. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Vous êtes au Qatar où vous suivez depuis le début le parcours des hommes de Didier Deschamps. Alors, à l'avant-veille de la rencontre, Nicolas, on imagine que l'obsession des Bleus, c'est de bien se préparer pour ne surtout pas passer à côté.
Oui, avec une journée plus conforme à leur quotidien depuis le début de la compétition. Conférence de presse tout à l'heure avec le deuxième buteur face au Maroc, Randal Kolo Muani, le joueur de Francfort, ancien Nantais, ainsi qu'Ousmane Dembélé. L'entraînement sera dans la foulée à 16h où l'on pourra assister aux 15 premières minutes et donc juger des forces en présence. Rabiot et Upamecano qui ont repris peu à peu ces dernières heures après avoir été ménagés car malades vont participer normalement à cette séance. L'interrogation porte toujours sur Kingsley Coman. Resté à l'hôtel hier, il pourrait se contenter de légères courses avec le préparateur physique. À ce stade, le staff de l'équipe de France envisage la présence et la disponibilité des 3 joueurs pour la finale dans 48 heures.
Et Emmanuel Macron, comme il l'avait annoncé, sera bien là pour supporter les Bleus. Il restera à Doha dimanche soir.
Oui, le chef de l'État restera sur place. La délégation française a demandé 100 chambres. La FIFA et l'ambassade de France se sont démenés pour trouver tout cela. L'après-match n'est pas encore totalement calé. Un avion a aussi été affrété par la Fédération française pour les familles. 20 places accordées aux anciens vainqueurs de l'Euro 84, de la Coupe du Monde 2018, de l'Euro 2000. Et comme Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, l'a annoncé sur RTL, Emmanuel Macron souhaite toujours convier les joueurs blessés à ce déplacement. Mais pour l'instant, ça bloque avec avec les clubs. Pogba, Kanté, Lucas Hernandez par exemple, n'ont pas le feu vert pour l'instant.
Et Nicolas, évidemment, par superstition, on ne parle pas de ce qui se passerait après la finale, mais si on gagnait, la France serait reçue sans doute à l'Elysée lundi, et sans doute y aurait-il des festivités lundi sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas si ça a été envisagé ou pas.
Alors il y a des contraintes aussi un petit peu organisationnelles, c'est-à-dire que l'équipe de France ne devrait pas décoller dans la matinée lundi matin pour rentrer à Paris, mais plutôt mi-journée voire dans l'après-midi. Donc tout cela pourrait être décalé à mardi, mais vraiment c'est un agenda et un planning qui est très mouvant pour au moment où l'on parle.
Mais vous ne raterez rien si vous restez à l'écoute d'RTL. Rien du match, de l'avant-match et de l'après-match avec, on l'espère, de nombreuses festivités si la troisième étoile est bien décrochée par les hommes de Didier Deschamps dimanche après-midi. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi froid mais lumineux.
Exactement, surtout sur une bonne moitié nord du pays, allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par l'axe nord-est. Donc évidemment, nous aurons aussi la Bretagne et la Normandie avec de très belles plages d'éclaircies. Encore un petit peu de grisaille qui aura tendance à persister vers les bords de la Seine, mais également de la Loire. En direction du tiers sud, en revanche, ça sera beaucoup plus perturbé, avec des nuages qui pourraient lâcher ici ou là encore quelques pluies, un petit peu de neige vers les Alpes et en direction du Jura. Par contre, la Corse, quant à elle, elle sera bien arrosée sur tout l'ouest du pays, avec en prime le Mistral qui va encore sévir jusqu'à 80 km/h. Quant à la Grande Bleue, elle sera certes nuageuse, mais elle pourra laisser aussi quelques éclaircies. Donc pour les températures, eh bien elle plafonne entre moins 1 et 3 degrés vers le nord-est, au centre-est, à l'ouest. Il faudra comprendre entre 2 et 8 degrés. La douceur, en tout cas, elle sera relativement là sous les nuages, puisque nous aurons 7 à 11 degrés dans le tiers sud du pays, et même jusqu'à 17 degrés autour de la Grande Bleue. Merci Claire.
Dans un instant, on revient sur le dramatique incendie de Vaux-en-Velin. Vous entendrez le témoignage bouleversant d'une habitante, mère de famille, rescapée du drame. Elle explique avoir vu la mort en face ce matin. À tout de suite.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
10 morts, dont 5 enfants de 3 à 15 ans et 4 blessés en urgence absolue. C'est le terrible bilan, on le rappelle, de l'incendie qui s'est déclaré au milieu de la nuit à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, avec des habitants pris au piège par les fumées toxiques, obligés parfois de sauter dans le vide pour espérer s'en sortir. Alors, pour mieux saisir l'horreur de ce qui s'est passé cette nuit sur place, on vous propose à présent d'écouter ce témoignage recueilli par notre journaliste Frédéric Perruche. Celui d'une mère de famille, elle habitait au 4e étage avec son mari et leurs 4 enfants.
En pleine nuit, apparemment aux alentours de 3h du matin, mon mari nous a réveillés en panique pour nous dire que l'appartement était totalement enfumé. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Alors voyant que les secours n'arrivaient pas, on a commencé à faire des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un drap humide pour leur permettre de respirer. On a noué des draps les uns aux autres, au moins 5-6 draps, pour faire une corde de survie et tenter de s'échapper par la fenêtre du 4e étage. Ensuite, on a très bien vu que c'était risqué de passer par la fenêtre. D'autres l'ont fait et ont péri. Alors, on a pris notre mal en patience en espérant voir les secours qui continuaient de sauver d'autres voisins. Donc, on a fini par attendre et comprendre que on n'avait pas d'autre choix que d'attendre, finalement. Hein. Voilà, on était pris par une fumée toxique et on s'est vu mourir. On a cru qu'on allait mourir, vraiment. J'appelais au secours par la fenêtre, mais personne ne pouvait nous aider, on était dans les étages. À un moment donné, mon petit enfant de 4 ans ne répondait plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. Là, on a commencé à paniquer et à vouloir sortir le petit par la fenêtre, mais les pompiers nous ont fait signe, après un long moment, de ne surtout pas faire ça et d'attendre malgré tout, jusqu'à la fin, que quelqu'un vienne nous sauver. Donc on a continué d'attendre. Cette attente était interminable, monsieur. Interminable. On a vu peut-être, je crois, la mort en face. Au final, nous avons été sauvés in extremis en 2 parties. Les enfants par une nacelle et nous par des masques à oxygène. On est descendu dans les escaliers qui étaient tout noirs et c'était irrespirable. Les pompiers étaient tout rouges et on étouffait presque. C'était terrible, apocalyptique. Je crois que nous sommes des miraculés. Ma pauvre voisine que je ne reverrai plus de palier, hein, a succombé. Voilà. Mais ce qui est le plus dur dans cette histoire, c'est que ce drame aurait pu être évité parce que nous avons interpellé tout le monde, les services de la mairie, les services du procureur, et personne n'a rien fait pour nous sortir de ce bourbier dans lequel un point de deal est installé. Alors je ne veux pas faire de politique, je dis juste qu'il y a eu un laxisme quant à cette situation pour cette copropriété. Donc ce n'est pas un hasard si cet incendie s'est déclenché, c'est criminel. Je n'accuse personne, je laisse la police scientifique faire son travail. Mais vraisemblablement, un canapé, sofa, était situé dans l'alcôve et qu'il permettait aux jeunes de s'y asseoir et de dealer. Donc au final, nous, on n'a pas compris pourquoi cette situation était permise. Et des subventions de la métropole ont été versées, des grosses subventions pour essayer de restaurer cet immeuble. Alors que l'idée, en réalité, ce n'était pas de restaurer, c'était d'indemniser les propriétaires et peut-être de nous libérer de cet enfer qui dure depuis quand même 10 ans. Donc ça fait long quand même, hein, un point de deal qui dure depuis 10 ans, ça n'existe pas. Je suis sous le choc. On n'a pas le droit de faire mourir des enfants. C'est innocent des enfants ? Non.
Les enfants dont parlait cette habitante, les enfants morts, ils sont 5, on le rappelle, de 3 à 15 ans. Document RTL recueilli par Frédéric Perruche. Je vous rappelle qu'une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame dont parlait à l'instant cette habitante, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur lui s'est rendu sur place dans la matinée. On reviendra évidemment longuement sur ce drame dans le journal de 12h30.
Et parmi toutes les choses que vous écouterez sans doute aujourd'hui, ce témoignage récolté par Frédéric Perruche est l'un des plus saisissants et l'un des plus dramatiques, l'un des plus consternants et peut-être aussi l'un des plus lucides que vous entendrez aujourd'hui. Dans une seconde, on va parler de la finale de la Coupe du Monde. C'est difficile, pour tout vous dire, d'enchaîner et de parler d'autre chose que de ce drame. À tout de suite.
RTL Midi.
Lidl.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL.
Coupe du Monde 2022.
Messi, tranquillo, va, le pegó. Gol nuestro, gol de Argentina. Lionel, Andrés, Messi, de penal, fuerte, arriba.
Messi qui a déjà marqué l'histoire du football avec ses 7 ballons d'or. Messi, dieu vivant du ballon rond dans son pays, mais un trophée lui a toujours échappé. Il lui tendra les bras dimanche.
C'est marrant ce que vous dites, parce que vous dites dieu vivant dans son pays.
Oui, en fait, j'ai rajouté dans son pays, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est sur la planète foot, en fait.
Oui, mais il n'est pas tout à fait un dieu vivant en Argentine. Ce n'est pas Maradona.
Je vous ai dit, j'aurais pas dû improviser, vous me recadrez tout de suite.
Souvent, les Argentins l'ont appelé le Catalan. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté l'Argentine à l'âge de 13 ans. Et il n'a pas le même rapport à l'Argentine que Maradona avait.
Il est beaucoup moins engagé, en tout cas même politiquement ou socialement.
Sa personnalité, c'est le footballeur surtout, mais la personnalité de Messi, elle ne déborde pas comme la personnalité de Maradona débordait.
Mais on imagine que... Alors, bonjour Hugo Hamelin.
Eh oui, ça va peut-être changer, vous avez raison Hugo, et c'est peut-être l'enjeu de ce match.
Hugo Hamelin, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar et qui est en ligne avec nous pour nous parler justement de Léo Messi. Hugo, on voulait s'arrêter. Alors, Pascal disait à l'instant, c'est pas tout à fait un dieu vivant aujourd'hui en Argentine, en tout cas pas comme Maradona. Mais quel poids il pourrait avoir dans cette finale de dimanche ? L'Argentine, on le sait, rêve comme nous d'une troisième étoile. Il y a une petite inquiétude d'abord sur son état de forme.
Oui, tout d'abord, cette information, une petite gêne musculaire derrière la cuisse gauche. Léo Messi a été laissé au repos hier, pas d'entraînement. Alors, ça remet pas du tout en cause sa participation pour la finale, mais comme c'est Léo Messi, bah, la nouvelle, elle prend des proportions énormes en Argentine. Il a 35 ans, le roi Léo, il est obligé d'un peu s'économiser. C'est le match de sa vie. Lui qui est le seul joueur de champ de l'Argentine et peut-être même de la Coupe du Monde à n'avoir jamais été remplacé. Il a joué la totalité des matchs en entier, dont une prolongation, ce qui n'est le cas d'aucun joueur de l'équipe de France, par exemple.
Maradona avait gagné la Coupe du Monde en 1986. J'ai envie de dire qu'il l'avait gagné quasiment tout seul, même s'il y avait des bons joueurs à côté de lui. Ce qui frappe quand même chez Léo Messi, qui n'a jamais lui gagné la Coupe du Monde, c'est le leadership qu'il a endossé, pas seulement en montrant l'exemple balle au pied.
Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Léo Messi, le timide, le réservé aux antipodes de la légende Maradona, eh ben, il a quand même changé ces derniers mois. Il est devenu un leader total en Argentine. Par exemple, après le quart de finale électrique contre les Pays-Bas, on l'a vu insulter de bolo, d'abruti, un néerlandais pendant une interview à la télévision. Ça s'appelait beaucoup au pays. On le voit sur chacun de ses buts aller célébrer au pied des tribunes remplies d'Argentins. Il est plus méchant, il est plus démonstratif. Messi, en fait, il veut devenir un personnage à la hauteur de son talent et être apprécié au pays, car comme vous l'avez dit, il est parti très jeune, dès l'adolescence, de l'Argentine.
Hugo, Messi, c'est que c'est peut-être sa dernière occasion pour d'accrocher cette troisième étoile sur le maillot de l'Albicéleste. Les Argentins sont convaincus que c'est son destin qu'il y arrivera.
Oui, il y a une sorte d'aura, effectivement, une sorte de destinée qui est évoquée par les Argentins qui sont ultra confiants. Écoutez Alejandro Magdalena, il est journaliste à El Diario de la República en Argentine et il résume très bien ce point de vue.
Il y a un climat généralisé dans le monde entier pour voir enfin la photo de Léo Messi brandissant la Coupe du Monde. Et ça va se passer. Tout est en train de s'accorder pour que Léo Messi entre dans l'histoire. Il a dit que c'était son dernier match international, la dernière fois qu'il va porter ce maillot bleu et blanc dans un mondial. Nous aussi, on sera sur une petite partie de cette histoire et on verra bien comment ça va se terminer.
Voilà, Léo Messi qui sera face à son destin dimanche. On verra si ça fonctionnera pour lui ou pour les Bleus.
Ce qui est sûr, Hugo, c'est que l'Argentine n'a pas forcément toujours produit un jeu très flamboyant depuis le début du mondial. C'est un peu comme les Bleus, quoi. Une équipe qui fait le dos rond mais qui sait être efficace, clinique quand il faut.
Ouais, c'est ça, beaucoup de similitudes entre les deux équipes. Par exemple, cette capacité à placer des contres mortels. Mbappé et Messi sont tous les deux en tête du classement des buteurs, 5 réalisations chacun, même si la Pulga, la puce argentine, compte 3 pénaltys, et ça va compter, ça aussi l'arbitrage dans cette finale. On est loin d'une génération dorée du côté de l'Albicéleste, à part le gardien Martinez, qui est un spécialiste des tirs au but, il faut le savoir, et le très prometteur Alvarez en attaque. Léo Messi, il est entouré de fidèles soldats, qui sont conscients d'ailleurs que c'est sa dernière Coupe du Monde, et qui ont avoué, même en conférence de presse, qu'il joue un petit peu pour lui permettre enfin de soulever ce trophée.
Il a 35 ans, Léo Messi. Je pense que vous n'étiez pas né, Hugo, lorsque la France a rencontré l'Argentine en Coupe du Monde. Je pense que dans ma mémoire, je n'ai de souvenir qu'un match. C'est en 78. Je n'ai pas le sentiment qu'on a rencontré l'Argentine. Si on l'a rencontré d'ailleurs en 2018, bien sûr. On l'a rencontré il y a 4 ans en 2018. Mais avant cela, ça devait être 1978 et ce n'est pas si fréquent. 35 ans, donc c'est sa dernière occasion. Et Messi, Mbappé, c'est deux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc c'est 100% Qatar également. J'imagine que les Qataris sont contents de cette finale.
Les Qataris sont évidemment très heureux commercialement, mais on va voir comment ça va se passer dans le vestiaire du PSG quand tout le monde va rentrer de la Coupe du Monde et qu'il y aura forcément des déçus. Un heureux, mais beaucoup de déçus.
En même temps, avec le trio Neymar, Messi, Mbappé, on était sûr qu'il n'y aurait pas 3 champions du monde parmi les stars du PSG, Hugo.
C'est sûr, mais on a même 2 déçus. Mais là, en finale, pour la dernière, c'est pour Léo Messi. Franchement, c'est très important. C'est l'objectif de sa vie, de son année, de ces dernières années.
Ah, c'est sûr. S'il n'est pas champion du monde,
on ne sait pas comment il va réagir. Voilà,
il manquera quelque chose à son palmarès. Pelé a été champion du monde. Maradona a été champion du monde. Cruyff n'a jamais été champion du monde. Mais c'est évidemment quelque chose qui pourrait manquer à son palmarès. Merci beaucoup, Hugo.
Merci à vous.
Merci. La finale est à 16h, évidemment, spéciale sur RTL, toute l'après-midi de dimanche. Dans une seconde, nous revenons avec cette information dramatique à Vaux-en-Velin, tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h30.
Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
Et à la une, évidemment, cet incendie au bilan dramatique cette nuit à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. 10 morts, dont 5 enfants de 3 à 15 ans. 4 blessés en urgence absolue. Des habitants pris au piège. 170 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Le feu est parti du rez-de-chaussée. Les habitants assurent qu'il y avait là, depuis des années, un point de deal. On y reviendra longuement, évidemment, dans cette édition. Et on sera dans 10 minutes avec Alexandre Vincent, le député LR maire de la circonscription qui est sur place. Des tensions entre communautés à Montpellier après la mort d'Aymen, cet ado de 14 ans fauché par un chauffard mercredi soir. L'Ukraine à nouveau sous les bombes, Kharkiv sans électricité aujourd'hui. Et puis c'est évidemment l'autre grand titre de la journée, J-2 désormais avant la finale du mondial de football entre la France et l'Argentine. Et si l'on parle beaucoup du duel entre Messi et Mbappé, il y a un troisième homme qui pourrait bien tout faire basculer dimanche après-midi. C'est Antoine Griezmann, impressionnant depuis le début du mondial. Le mondial, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. L'équipe de France va-t-elle, selon vous, remporter la Coupe du Monde? On attend votre réponse sur notre site. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, on parlera musique avec Calogero.
Le 32-10, et j'imagine que vous serez nombreux à vouloir réagir au drame de Vaux-en-Velin.
La météo à la fin du journal avec vous, Claire Delorme. Ce sera frisqué cet après-midi.
Frisqué sur une bonne partie du pays, là où il n'y aura pas de nuages. Moralité, ça sera pluvieux au niveau du tiers sud, mais beaucoup plus doux. Et donc, pour le reste du pays, ça sera davantage ensoleillé. Mais en effet, il faudra bien se couvrir.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h.
Et pour commencer, donc, ce témoignage après l'incendie qui a fait 10 morts, dont 5 enfants et 4 blessés en urgence absolue cette nuit dans un immeuble de Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Feu qui est parti du hall d'entrée. Et très vite, les fumées toxiques se sont propagées dans les appartements. 170 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes et secourir les habitants. Parmi eux, Sébastien et son fils.
J'ai été réveillé par mon équipe et il y a eu un feu dans mon allée. Ça a pris feu des appartements. Moi, j'habite au 4e étage. On a été sauvés in extremis par les pompiers. Ils nous ont descendu à l'échelle. Mes enfants, ma femme, moi, ils m'ont descendu par les escaliers avec un masque d'oxygène. Et j'ai vu l'ampleur des dégâts. Il y a eu beaucoup de morts.
Vous avez eu très peur?
Ah bah oui, moi, j'ai eu peur pour mes enfants. Le plus, c'est pour mes enfants.
Et comment vous avez fait pour gérer tout ça?
J'ai pris tous mes matelas, j'ai pris toutes les couettes que j'avais chez moi, j'ai tout aspergé d'eau dans la salle de bain. Et après, je les ai tous mis dans la chambre, j'ai calé les matelas contre la porte. Mes enfants, je les ai mis sous des couettes imbibées d'eau pour qu'ils puissent ne pas avaler de la fumée. Et après, les pompiers sont venus, ils ont sorti deux enfants, moi et ma femme, par l'échelle. Et moi et le bébé par les escaliers, avec des masques oxygène.
Vous êtes des miraculés?
Ouais, on peut dire ça, on est des miraculés.
Franchement, c'était vraiment terrible. Mon père, il est venu avec ma mère et mes frères et sœurs. Et en fait, on est parti dans la pièce la plus éloignée de la porte, donc la chambre de mes sœurs qui était au fond du couloir. Franchement, c'était vraiment très dangereux parce qu'on a regardé par la fenêtre et les flammes du rez-de-chaussée jusqu'au premier, ils montaient, mais à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les flammes venaient jusqu'au troisième. Et les pompiers sont vraiment venus au dernier moment pour éteindre le feu, sinon je pense qu'on serait plus là. La moitié de ma famille a été évacuée par l'échelle avec le camion de pompiers et moi j'y étais.
Toi, t'as été évacuée par l'échelle?
Oui.
Ça t'a fait quelle impression?
J'avais vraiment peur parce que quand les pompiers ils ont cassé la porte, il y avait vraiment beaucoup de fumée qui rentrait dans la chambre. Et du coup, j'ai eu vraiment peur. Mais j'ai réussi à survivre avec ma famille.
Témoignage RTL recueilli par Frédéric Perruche. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Une enquête est ouverte évidemment pour comprendre les circonstances de ce drame. On sait, on l'a dit, a priori le feu est parti du rez-de-chaussée.
Oui, à proximité du hall d'entrée, l'incendie s'est donc soit déclaré dans les parties communes ou bien possiblement dans un local à l'entrée de cet immeuble de 7 étages. Mais pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Impossible de déterminer les causes aussi rapidement et avec certitude. On peut seulement émettre des hypothèses et aucune n'est écartée, y compris la piste de l'incendie criminel. C'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une demi-heure. Est-ce un acte malveillant? Est-ce un mégot? Est-ce un dysfonctionnement électrique? Sur place, les habitants assurent qu'il y avait là un point de deal. Ces occupants ont-ils par exemple allumé un feu pour se réchauffer et qui a dégénéré? Mais vous l'avez dit, une enquête est ouverte et elle prendra du temps, au moins plusieurs jours. À l'heure où l'on parle, je le rappelle, le lourd bilan des victimes n'a pas changé. 10 personnes sont décédées, dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. 4 personnes sont très gravement blessées.
Merci Maxime. Deux cellules d'écoute ont d'ailleurs été ouvertes dans les établissements scolaires, l'école Jean Villard et le collège Simone Lagrange, dont des élèves figureraient parmi les victimes. Vous le disiez, des habitants pointent du doigt l'insécurité, la présence d'un point de deal dans cet immeuble. On en parlera dans une dizaine de minutes avec Alexandre Vincent, député LR de la circonscription qui s'est rendu sur place ce matin.
À Montpellier, tension toujours très vive après la mort mercredi soir d'Aymen.
L'adolescent de 14 ans a été fauché par un chauffard dans le quartier sensible de la Paillade lors des rassemblements qui ont suivi le match France-Maroc et la victoire des Bleus. L'automobiliste qui a pris la fuite est toujours recherché, Patrick Tégéraud, mais des affrontements ont éclaté ensuite. Hier soir, affrontements au parfum de représailles.
Oui, on se doutait bien que la tension serait grande entre les communautés. La famille de la victime avait pourtant appelé au calme. Des sections de CRS patrouillées depuis le matin. Emen est d'origine marocaine. Le conducteur est un gitan sédentarisé. Le conducteur et son passager ont été reconnus et poursuivis le soir même du drame. Un homme a été passé à tabac et hospitalisé. Il est actuellement sous protection policière. Et il y a eu des poubelles et une voiture incendiée, des barricades et des jets de pierre sur les CRS. Les policiers ont dû tirer des grenades lacrymogènes. Et l'appartement du conducteur ou de son passager a été vandalisé. Le calme n'est revenu que vers 1h du matin. Les autorités redoutent une escalade toujours entre les communautés. L'affaire est particulièrement sensible. Les enquêteurs espèrent que l'interpellation du conducteur calmera un peu les esprits. Il est toujours activement recherché.
Patrick Tégéraud pour RTL. Gérald Darmanin lui alerte sur le danger de l'ultra-droite après les incidents à l'issue de France-Maroc. On en parlait mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur demande au service de renseignement un suivi spécifique avant le match de samedi qui opposera le Maroc et la Croatie. Le ministère de l'Intérieur explique en effet que mercredi dernier, des groupes d'ultra-droite se sont rassemblés avec un mot d'ordre, je cite, « casser de l'arabe ».
Pardonnez-moi, direction l'Ukraine à présent, où une nouvelle salve de frappe s'est abattue ce matin. Pardonnez-moi.
On déplore au moins 10 morts et une nouvelle fois, ce sont principalement les infrastructures stratégiques qui sont visées par les Russes, Sophie Jousselin. Plus d'eau donc ce matin dans certains quartiers de Kiev et plus d'électricité à Kharkiv.
Oui, le pays a subi une nouvelle attaque massive. 60 missiles russes ont été tirés sur l'Ukraine, dont 40 sur la capitale. 37 ont été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. L'administration militaire de la région de Kiev dit avoir résisté à l'une des plus grandes attaques de missiles depuis le début de l'invasion russe, fin février. Suite à ces frappes, le réseau de distribution d'eau de la capitale est hors service. Kharkiv, la deuxième ville du pays au nord-est, est plongée dans le noir. Le maire fait état de destruction colossale sur les infrastructures énergétiques. Deux autres villes dans le centre-est du pays sont également sans électricité, Poltava et Kremenchuk, où il n'y a plus du tout de chauffage et plus de trolleybus. C'est pratiquement le pays tout entier qui a été touché par ces frappes. Dans le centre de l'Ukraine, à Kryvyi Rih, un immeuble a été détruit. Il y a 2 morts et 5 blessés. Les infrastructures de la ville d'Odessa au sud ont également été touchées. Et dans l'est du pays, dans le Donbass, on déplore 8 morts à Lugansk. Mais là, dans cette région, les autorités d'occupation russe accuse l'artillerie ukrainienne.
Merci beaucoup Sophie Jousselin.
Les vacances de Noël commencent ce soir avec les traditionnels trajets pour passer par exemple des fêtes en famille.
Des retrouvailles menacées cette année encore par des préavis de grève dans les airs et sur les rails. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Est-ce que vous arrivez en studio avec des nouvelles rassurantes ?
Alors, pour les rails déjà demain, oui. Ce week-end, c'est la grève des aiguilleurs de la SNCF.
Il y a beaucoup de trains annulés, hein, samedi et dimanche.
Alors, attendez, on arrive.
Oui, vous dites attendez, mais ça arrive sur les portables.
Une vingtaine de TGV annulés seulement ce samedi sur 650, ça veut dire 97% de trains en circulation. L'axe le plus compliqué, c'est la liaison Paris-Sud-Ouest avec là un tiers des trains annulés. Pour ce qui est de la journée de dimanche, on aura davantage d'informations dans la journée
pareil
et dans la soirée.
Pareil pour le Sud-Ouest dimanche,
absolument.
C'est beaucoup annulé, notamment le matin.
Ce sera le secteur le plus complexe.
Il a bossé le dossier visiblement.
Parce voilà, j'avais pas besoin de venir.
Je suis un poil concerné.
Alors, je vais vous parler du week-end prochain.
Et on apprend ça à 10h du matin par un petit texto qui arrive. Votre TGV est supprimé. T'es très content quand ça arrive.
Voilà, pour le week-end prochain, celui du Père Noël, le 24 et le 25 décembre.
Et celui qu'on
décembre.
Proposait, c'était à 16h08 pendant le match de l'équipe de France. C'est pratique.
C'est bien vous connaître, effectivement.
Non, mais c'est formidable.
Est-ce qu'on peut laisser Pierre avancer dans son papier ?
J'allais vous dire que ces informations qui arrivent, ce petit texto qui vous dit que votre train est annulé, c'est un petit peu le sel de ces mouvements sociaux parce qu'effectivement, on l'apprend la veille. Au mieux, l'avant-veille. Alors, pour ce qui est du week-end du 24-25, 2 préavis déposés. Un chez Air France, dès jeudi prochain et jusqu'au 2 janvier. Le personnel navigant veut faire pression sur la direction en pleine négociation sur un nouvel accord collectif. Et puis la deuxième, évidemment, à la SNCF. Après les aiguilleurs, demain et dimanche, ce sont les contrôleurs qui ont déposé un préavis pour le deuxième week-end des vacances. Et même pour celui du nouvel an, pour les retours. Ils étaient déjà en grève au début du mois. À ce moment-là, il y avait 2 tiers des TGV et des intercités qui avaient dû dû être annulé.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à convaincre Pascal, mais,
oh bah, mais c'était remarquable quand même. Les informations, je vous félicite.
RTL Coupe du Monde 2022.
J-2 désormais, donc avant la finale tant attendue entre la France et l'Argentine. C'est une finale rêvée, ce sera dimanche à 16h.
Et au-delà du duel très attendu lui aussi entre les stars du PSG, Léo Messi et Kylian Mbappé, un homme pourrait bien faire basculer la rencontre tant il impressionne depuis le début de ce mondial au Qatar. C'est bien simple, il était partout face au Maroc. Bonjour Mourad Jabari.
Bonjour.
Cet homme, vous l'aurez reconnu, c'est Antoine Griezmann.
Oui, il brille sur le terrain, nous éclabousse de son talent à chaque match. Avec sa patte gauche soyeuse et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne, tout paraît facile pour Grisou. Il trouve les ouvertures, gère le tempo, il lance les attaques, mais fait aussi le ménage dans la surface. Il est infatigable. Antoine Griezmann est attaquant, milieu de terrain et défenseur dans cette équipe. Un joueur qui plaît forcément à la légende, le milieu de terrain Alain Giresse.
C'est un garçon qui, d'abord, qui a le sens du jeu, qui sent le foot, et puis qui a le sens du collectif. Quoi. On voit, il crée un lien. Non, il est admirable dans cette et évidemment, il est indispensable dans ce nouveau rôle pour lui et pour l'équipe de France.
Oui, le Mâconnais de 31 ans s'est réinventé sans aucune baisse de régime dans cette compétition. Meilleur passeur de l'équipe de France avec 3 offrandes. Il est aussi celui qui centre le plus, qui presse plus l'adversaire. Difficile de savoir à quel poste il joue aujourd'hui, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que le meilleur joueur français depuis le début de cette compétition, c'est lui, c'est Antoine Griezmann.
Merci beaucoup Mourad Jabari. On vivra évidemment cette finale dimanche sur RTL, journée spéciale pour ne rien rater. L'avant-match, l'après-match, le coup d'envoi, je vous le rappelle, c'est à 16h, 11h, donc en Guadeloupe et en Martinique, où on nous écoute actuellement, Pascal, sur RCI.
Exactement.
Il est 7h42 là-bas.
Et il y a près de 200 000 personnes qui nous écoutent en ce moment.
On les embrasse ?
Bien sûr, et on leur dit merci. Je vous rappelle notre débat à 13h avec Isabelle Langer. Messi doit-il gagner le Mondial ? C'est une drôle de question, mais Messi est-il le joueur de cœur du Mondial ?
Vous avez souvent de drôles de questions, mais c'est pour ça qu'on vous aime.
Ça, c'est celle d'Isabelle Langer, en l'occurrence.
Bon, désolé. J'essayais pour une fois de vous flatter, vous ne saisissez pas la perche, c'est pas grave.
La météo,
on vous retrouve, Claire Delorme, du soleil, mais du froid.
Exactement, sur une bonne partie du pays, donc actuellement de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le nord-est, mais également vers la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, c'est là où nous aurons en effet le ciel le plus lumineux, mais également le plus froid. Nous aurons en effet dans le nord-est entre moins 1 jusqu'à 3 degrés, donc vers le nord-est, mais aussi vers le centre-est, 2 à 8 degrés ailleurs. En revanche, en direction du tiers sud, donc c'est-à-dire du Piémont pyrénéen en remontant vers les Vosges, eh bien ça sera beaucoup plus nuageux, même très couvert, avec en prime quelques pluies qui pourraient être lâchées ici ou là, sous forme de neige mêlée en direction du Lyonnais vers le Jura. La Corse sera bien arrosée, en effet, avec des pluies qui seront temporairement plus marquées, accompagnées de Mistral qui va encore souffler fort. Pour le reste de l'extrême sud-est, ça sera nuageux, mais beaucoup plus sec. Et donc les températures sous les nuages seront forcément un petit peu plus douces, comprises entre 7 à 11 degrés en général, et tout de même de 13, voire jusqu'à 17 degrés aux alentours de la Grande Bleue.
Merci beaucoup Claire Delorme.
Et dans un instant, nous serons à Vaux en Velin avec Alexandre Vincent Day, qui est le député républicain de la circonscription. Il est sur place après le terrible incendie qui a ravagé un immeuble cette nuit.
RTL Midi. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
C'est l'information de la journée, vous le savez, ce dramatique incendie à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, incendie qui a provoqué la mort de 10 personnes, dont 5 enfants de 3 à 15 ans, mais aussi 4 blessés en urgence absolue. Bonjour Alexandre Vincent Day.
Bonjour.
Vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription du Rhône, donc celle dont dépend la commune de Vaux-en-Velin, et vous vous êtes rendu sur place ce matin. La première question qu'on a envie de vous poser, monsieur, c'est est-ce que vous avez des nouvelles des blessés graves, ceux qu'on présente en urgence absolue ?
Alors les quelques nouvelles que j'ai, hein, je parle avec évidemment beaucoup de pincettes, parce que l'évolution de la situation est peut-être assez rapide. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'un certain nombre de personnes qui étaient en urgence absolue se porteraient mieux. Ce qui est vrai, c'est que je suis encore sur place avec aux côtés de Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Bah, l'émotion est évidemment extrêmement forte, parce que c'est un drame pour cette commune et pour le territoire. Mais il y a un élan de solidarité entre les habitants actuellement qui est assez exceptionnel. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se tient aux côtés des habitants qui sont extrêmement choqués aujourd'hui.
Est-ce qu'on en sait plus sur les causes de cet incendie ?
Non, on n'en sait pas aujourd'hui plus. Nous avons pu échanger avec le procureur de la République. J'ai échangé très tôt ce matin, aux premières heures de la journée, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et avec Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir se prononcer sur les causes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des moyens extrêmement importants sont déployés pour connaître les causes de cet incendie.
Alors, les causes sont évidemment présagées des résultats de l'enquête, mais on a entendu beaucoup de témoignages, notamment sur RTL depuis ce matin, et celui de cette habitante, par exemple, mère de famille, rescapée avec son mari et ses quatre enfants. Elle dit, elle, avoir alerté les pouvoirs publics à de nombreuses reprises. Écoutez.
C'était terrible, apocalyptique. Je crois que nous sommes des miraculés. Ma pauvre voisine a succombé, voilà. Mais ce qui est le plus dur dans cette histoire, c'est que ce drame aurait pu être évité parce que nous avons interpellé tout le monde, les services de la mairie, les services du procureur. Personne n'a rien fait pour nous sortir de ce bourbier dans lequel un point de deal est installé.
Vous entendez à la fois la détresse et la colère de cette habitante, qu'est-ce que vous répondez ?
Écoutez, j'ai pu échanger avec cette habitante qui est intervenue sur l'antenne il y a de ça quelques minutes. Ce qui est sûr, et pour en avoir échangé avec le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre ce matin, sur Vaux-en-Velin, évidemment, comme dans d'autres secteurs, comme dans d'autres quartiers populaires, il y a évidemment des points de deal. Il y en avait un dans cet immeuble. Ce que le ministre de l'Intérieur m'a donné comme information, c'est que depuis le début de l'année, sur ce secteur notamment, 25 interpellations ont eu lieu. Il y a près de 30% d'augmentation d'arrestations sur le secteur concernant les trafics de drogue. Et il y a encore quelques semaines, un important dealer a été arrêté. Et cette nuit, à 1h du matin, dans ce secteur également, il y a eu une arrestation pour trafic de drogue.
Monsieur Vincent Day, manifestement, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas le sujet. Comment un point de deal peut-il exister en France depuis 10 ans sans discontinuer ? On a le sentiment ce matin que ce qui se passe à Vaux-en-Velin, c'est pas un accident. C'était annoncé et rien n'est fait. Allez dire aux familles de victimes qu'un dealer a été arrêté. Il y a 5 enfants qui sont morts. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ces points de deal ? Vous êtes un député de la République. Qu'est-ce que vous attendez sur le terrain ?
Alors, vous savez, Pascal Praud, je vais vous dire, déjà, c'est un peu facile de faire de la démagogie dans un studio
c'est
radio.
Ce n'est pas de la démagogie.
Monsieur Praud, si vous me laissez simplement en placer.
C'est incroyable, d'ailleurs, de répondre ça.
Non, j'ai été. Alors, vous savez, j'ai été maire de Rieux-la-Pape, ville très populaire de cette circonscription, pendant près de 8 ans et demi. J'ai dans ma commune aussi des points de deal. J'ai été menacé de mort et ma famille a été menacée de mort, ainsi que mon petit bonhomme qui avait 5 ans. Nous avions été placés sous protection policière parce que justement nous avons démantelé des points de deal. Alors je vais vous dire, monsieur Praud, entre vous qui êtes derrière votre micro et moi qui ai été élu de terrain et qui connais ces problèmes-là, nous ne sommes pas tout à fait du même côté de la barrière et c'est facile de dire que nous ne faisons rien quand vous avez des élus qui se battent au quotidien, d'accord ? Donc à un moment, je ne peux pas vous laisser dire ça et c'est un peu facile d'agiter des chiffons quand on ne règle pas les problèmes sur le terrain, alors que moi je fais partie de ceux qui les règlent et je me bats aux côtés des habitants, je l'ai fait en tant qu'élu local et je continue à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, oui, il y a un problème, il faut continuer à mettre des moyens, bien évidemment. Et mon travail de député aujourd'hui, c'est que justement je connais ces problématiques et j'ai déposé, il y a encore de cela quelques semaines, une proposition de loi pour essayer justement de faire en sorte que dans les quartiers populaires, les personnes qui sont condamnées pour trafic de drogue ou les personnes qui hébergent des personnes condamnées pour trafic de drogue soient expulsées. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut encore durcir la législation et je fais partie de ceux qui se battent pour ça. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je fais partie de ceux qui connaissent ce qui se passe dans ces territoires pour être élu de terrain et je continue à me battre tous les jours pour ces habitants.
Vous parlez, Alexandre Vincent Day, de ces habitants à qui il faut apporter des solutions et aussi à court terme. Tous les sinistrés vont pouvoir être relogés. Ils ont déjà un point de chute pour ce soir, par exemple, toutes ces familles.
Oui, aujourd'hui, j'ai pu échanger avec la préfecture. Ce soir, d'ores et déjà, une solution pour les quelques 80 personnes qui sont aujourd'hui en situation difficile vont être relogées ce soir. Et ensuite, il y aura des solutions plus durables qui seront encore qui seront proposées dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, il y a une solution visiblement qui a été trouvée pour tout le monde pour ce soir.
Merci, monsieur Vincent Day. Et vous n'êtes évidemment pas responsable de tout ce qui se passe sur le territoire. Mais notre conviction à beaucoup d'auditeurs que je peux entendre sur l'antenne d'RTL, c'est que si la loi ne change pas, si le logiciel ne change pas, si les peines ne sont pas plus importantes, eh bien ces phénomènes de squat et de deal continueront. Et là-dessus, j'ai cru comprendre que vous étiez sans doute sur cette position. Merci en tout cas d'avoir témoigné sur l'antenne d'RTL. Il est 12h52, on va parler dans une seconde. Culture,
musique, Calogero, et ce sera avec Steven Bellery.
À tout de suite.
RTL Midi. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui le retour surprise de Calogero.
2 ans après Centreville, le chanteur a dévoilé une chanson inédite et ça, c'est pas un hasard. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Calogero célèbre en fait les Français à l'avant-veille de la finale de la Coupe du Monde de football.
Oui, un texte que Calo a commandé spécialement à son auteur fétiche, l'excellent Paul École, avec lequel il collabore depuis 2014. Il lui a demandé d'écrire un hymne aux Français et au vivre ensemble. Calogero, fils d'immigrés italiens, estime qu'on est Français par choix ou par hasard. Ses parents ont quitté la Sicile par choix, dit-il dans une note. Lui est né en France par hasard et a demandé à être naturalisé français par choix à l'âge de 18 ans. Par choix ou par hasard, c'est le nom du nouveau Calo.
Être français, c'est les tours des mureaux, c'est des champs jaunes et les tracteurs Peugeot, des clochers, des temples et des minarets, et on sait vivre ensemble et ce qui paraît. Être français, les ronds-points qui fleurissent, draguer les extrêmes, voter pour des miss. Être français, c'est tenir des pancartes, ce petit point qu'on entend sur la carte, c'est ici. Parnasse à Limoges, à Drancy, c'est aimer la montagne, aimer la mer, c'est le pont des arts, c'est aimer Césaire. Être français, c'est lever en octobre un verre de vin pour admirer la robe, il boit au prochain congé à la vie ou à la mémoire d'Ilan Halimi. Moi aussi.
Un nouveau morceau de Calogero construit de manière atypique, Steven.
Ouais, sans aucun refrain chanté, il est musical. Chaque couplet commence par « être français » et l'expression qui donne son nom au morceau, par choix ou par hasard, n'est prononcée qu'à 2 minutes 22.
Être français, c'est des gens qui s'unissent, le temps d'une balle ou le temps des cerises, c'est allumer la télé des bougies, cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent, c'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle, un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit des Césars, c'est par choix ou par hasard.
Par choix ou par hasard, c'est la nouvelle chanson de Calogero. En écoute dès à présent, il travaille sur son 9e album tranquillement.
Merci Steven. C'est terminé ?
Bah, je sais pas. Si vous... Soit vous remerciez plus longuement Steven de nous avoir fait le bonheur de venir nous faire écouter ce titre assez entraînant à 2 jours de la finale du mondial, soit vous le laissez partir tranquillement en lui souhaitant un beau week-end. Et on vous dit à dimanche.
Merci Steven Bellery. Et dimanche, effectivement, laissez-vous tenter dans la matinée désormais. Il est 12h57. On va marquer une pause. Et nous allons nous retrouver avec les auditeurs dans une seconde et on pourra parler football, bien sûr, avec Isabelle Langer. Est-ce que Messi doit gagner la Coupe du Monde? Est-ce que c'est le footballeur de cœur de cette Coupe du Monde? À tout de suite.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.